Vous êtes sur RTL.
Et jusqu'à 10h15, matinale européenne avec Stéphane Carpentier et le journal de Mélina Fachin.
Je me permets de traduire. Il est 9h du matin pour nous en France. Bonjour Mélina.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À voter, les premiers électeurs ont donc déposé leur bulletin dans l'urne.
Les bureaux de vote pour les européennes ont ouvert il y a une heure partout en France. Le Premier ministre Édouard Philippe a déjà voté dans sa ville du Havre. Pour Emmanuel Macron, ce sera à la mi-journée à la mairie du Touquet. Morad Jabari, vous êtes à Lyon pour RTL dans le deuxième arrondissement. À quelques centaines de mètres de l'endroit où a eu lieu l'explosion de vendredi soir.
Oui, exactement. Et on avait annoncé une sécurité renforcée dans les bureaux de vote ici. Il n'y a finalement qu'un seul vigile à l'entrée, sa carte d'électeur à la main. Albert vient de se raviser, il ne se sentait pas à l'aise.
Sur Lyon, il y a une inquiétude puisque c'est la première fois qu'un attentat se produit. C'est un peu traumatisant, surtout pour les gens qui habitent dans le quartier, comme moi. Et les bureaux de vote, c'est un lieu un peu sensible. Et effectivement, il n'y a pas de présence policière devant les bureaux de vote, j'ai vu personne. Je trouve ça un peu surprenant, oui.
Surprenant, à quelques mètres de la rue Victor Hugo, le lieu de l'explosion, le président de ce bureau de vote, Victor Limousin, se veut rassurant et appelle les habitants du quartier à venir voter.
Si la préfecture, la ville de Lyon ont estimé que cela suffisait, nous on est en confiance, il faut continuer à vivre. On ne peut pas mettre non plus des gendarmes, des policiers, l'armée derrière chaque citoyen. Ce sont des lieux sensibles, mais aujourd'hui on voit bien, la rue est un lieu sensible, on voit bien avec ce qui s'est passé vendredi soir. Question de sécurité, je fais confiance en ceux qui les mettent en place et de toute façon ce sont eux qui rendront des comptes.
Malgré tout, de nombreux habitants sont venus voter ce matin dans ce bureau de vote.
Merci Morad Jabari, envoyé spécial à Lyon pour RTL. Le suspect numéro 1 de cette explosion est toujours en fuite. La police a diffusé deux nouveaux clichés de ce cycliste. Et c'est lui qui aurait déposé le colis piégé devant une boulangerie rue Victor Hugo. Des traces ADN ont été relevées sur le paquet. 13 personnes ont été légèrement blessées dans l'attaque.
Alors aujourd'hui, 26 mai, évidemment, c'est toute l'Europe qui vote.
Et on prend maintenant la direction de l'Allemagne. Bonjour Blandine Nielsen.
Bonjour Mélina.
Vous êtes la correspondante de RTL à Berlin et vous vous trouvez dans un bureau de vote de quartier. Est-ce qu'il y a déjà du monde ?
Alors oui, il y a du monde. J'ai vu plusieurs dizaines de personnes pour l'instant défiler dans ce bureau de vote. C'est une école professionnelle du quartier de Wilmersdorf à Berlin. Alors il faut dire qu'il fait plutôt beau ce matin à Berlin. Alors c'est plutôt propice pour voter tôt avant de profiter de la journée. Ce bureau de vote a ouvert à 8h comme en France. Il faut savoir qu'en Allemagne, tous les bureaux de vote ferment à 18h. Alors l'Allemagne envoie le plus gros contingent de députés, 96 députés. Et pour cela, figurez-vous qu'on a un bulletin de vote qui fait presque un mètre de long avec 41 listes, plus qu'en France donc. Et ça ne semble pas décourager les gens parce qu'on attend plutôt une forte participation. Il y a un sondage en amont de cette élection qui disait que 77% des Allemands avaient l'intention d'aller voter aujourd'hui. Et même si ce que j'ai vu dans ce bureau de vote de Berlin n'a rien de représentatif, bien sûr, je dois dire que toutes les personnes avec qui j'ai parlé ce matin m'ont dit leur volonté d'aller voter. On sent une forte détermination. J'ai même rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit que elle n'avait pas voté en 2014, mais qu'elle voterait en 2019. Donc, on peut s'attendre à une participation plus forte qu'en 2014. Elle était de 48% à ce moment-là.
Et on va suivre tout cela avec vous, Blandine Nielsen, bien sûr, à Berlin. On reviendra vous voir d'ici quelques minutes dans la suite de cette matinale spéciale européenne. On ira à Rome aussi, on ira à Londres prendre le pouls. Donc, avec ce scrutin européen, c'est une matinale spéciale qui se prolonge jusqu'à 10h15. Ce sera la même chose ce midi de midi à 12h45. Et puis, ce soir, en version très très longue, puisque coup d'envoi 18h avec Philippe Robuchon et dans la foulée Marc-Olivier Fogiel pour une grande soirée électorale avec tous nos spécialistes, invités et éditorialistes. Mobilisation toujours plus faible hier, Mélina, pour les gilets jaunes, mais avec parfois encore des tensions.
Selon le ministère de l'Intérieur, il n'était que 12 500 manifestants dans toute la France, le chiffre le plus bas après 28 semaines de contestation. Ils étaient un peu plus de 2000 à Paris, un peu plus de 1000 à Amiens. Là-bas, des black blocs ont infiltré le cortège. Une dizaine de façades d'immeubles ont été abîmés à coups de jets de pierre. 27 personnes ont été interpellées. Amiens, ce n'est pas un hasard, c'est la ville d'Emmanuel Macron.
C'est super symbolique, c'est pour qu'il y ait un retentissement et qu'ils se sentent touchés et qu'ils agissent enfin et qu'ils répondent à nos revendications.
La banque cassée, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pareil, le conteneur renversé en bord de route, c'est de la dégradation gratuite. C'est tout ce qu'il nous reste pour nous faire entendre, mais je suis pas fan, c'est pas bien.
Des gilets jaunes rencontrés à Amiens par Antoine Decarne pour RTL.
Alors restez bien avec nous, la suite de RTL Matin, c'est dans un instant. On va passer à table avec un menu sans sel, s'il vous plaît.
RTL Matin. RTL Matin, il est 9h06, aujourd'hui une matinale européenne avec Stéphane Carpentier et la suite du journal de Mélina Fachin.
Alors Mélina, l'été approche, il est peut-être temps de faire un petit régime.
On parlait pour vous. Hein. Alors bon, d'accord, aujourd'hui c'est la fête des mères, mais manger sain c'est bon aussi, et pour perdre quelques kilos et surtout faire attention à son cœur. Un ennemi à abattre, c'est le sel. Au CHU de Rennes, un chef cuisinier l'a bien compris et il essaye de faire perdre leurs mauvaises habitudes à certains patients. Reportage de Patrice Gabart.
Fabien, victime d'un infarctus il y a 5 ans et en attente de greffe, est l'un des 5 insuffisants cardiaques de cet atelier culinaire organisé par le CHU de Rennes.
Moi, je suis preneur de toutes les idées. Des fois, dans la cuisine, on tourne en rond. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Ce midi, j'ai pris ça, donc ce soir, faut pas que je prenne ça.
Parce qu'il ne doit pas dépasser 5 à 6 grammes de sel par jour.
De petits écarts, même sur un ou deux repas, peuvent vous faire passer de l'autre côté de la barrière.
Le professeur Erwan Fléché, spécialiste en chirurgie cardiaque.
Le malade devient beaucoup plus essoufflé, il a du mal à respirer, il a de l'eau dans les poumons, il prend du poids, il prend de l'œdème.
En cuisine, Katia, 48 ans, déjà opérée 2 fois du cœur, mais la dernière main à l'entrée du jour.
Ce sont des tomates qui ont été confites dans de l'huile d'olive avec des graines de coriandre et divers petits aromates de gingembre. Par-dessus, il y a des tours de moulin à poivre, de l'huile, une quenelle de faisselle parfumée au cerfeuil. Et là, par-dessus, je suis en train de poser des radis coupés très finement par le chef.
Le chef René Loïc Pascoe qui insiste sur le rôle des condiments, des épices et des produits frais pour donner plus de saveur à la cuisine sans sel.
On a le radis qui apporte piquant, la douceur de la faisselle qui est légèrement aillée, ça contrebalance, et la tomate qui va apporter son acidité naturelle. Là, il n'y a pas un pet de sel.
Un vrai régal.
C'est fin en plus, visuel super.
C'est excellent, tout ressort. Les épices, les herbes, c'est très bon. Je pense que je vais leur faire à la maison.
Et en plat de résistance, c'était un saumon poché dans une feuille de chou avec une sauce vierge, huile d'olive et citron.
Reportage appétissant de Patrice Gabart à Rennes pour RTL.
RTL.
Roland-Garros 2019.
Ouais, c'est l'événement du jour, c'est le coup d'envoi de la grande quinzaine sur la terre battue de la Porte d'Auteuil.
Avec le grand retour de la star des cours, Roger Federer, cela faisait 4 ans que le Suisse n'était pas revenu.
Déjà, je suis énormément content d'être de retour ici à Paris, en bonne santé. Forcément, le public il m'a beaucoup manqué. Roland Garros, ça fait tellement d'années que je l'ai joué. Ça a commencé l'aventure ici à 20 ans, la victoire ici à 10 ans, une des plus beaux victoires de ma vie. Alors pour moi, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, honnêtement, au niveau des résultats, mais c'est sympa aussi. Mon premier adversaire, il sait jouer sur terre, il a joué déjà énormément de matchs sur la surface cette année, et ce n'est pas simple du tout. Alors, c'est vraiment match par match, je sais, on l'entend souvent, on le connaît, mais jusqu'à maintenant, la préparation s'est très bien passée. Le corps, il a bien réagi sur la surface que j'ai pu jouer dessus depuis des années. Alors, je suis vraiment satisfait de la situation où je me retrouve. Je suis prêt pour y commencer, quoi.
Roger Federer au micro d'Isabelle Langer. Roger Federer qui fait toujours battre le cœur des amateurs de tennis selon notre baromètre sport Odoxa pour Groupama et RTL, Jean-Michel Rascol.
Roland Garros peut remercier son meilleur ambassadeur, Roger Federer. 83% des amateurs de tennis estiment que sa seule présence rehausse l'intérêt, la valeur du tournoi. On observe cependant une petite désaffection des Français pour les internationaux de France. Moins 4% en 2 ans, les jeunes ne sont plus que 38% à vouloir suivre d'une façon régulière la quinzaine. Il faut reconnaître que les chances de voir un Français soulever la coupe des mousquetaires sont infimes. 68% des personnes interrogées ne laissent planer aucun doute sur le sujet. Si Rafael Nadal, le prince des lieux, est le classique favori pour 43%, son retour sur terre à Monte Carlo et Madrid, même son succès sur Djokovic à Rome, semble laisser une opportunité à ses adversaires. 24% des Français misent sur une victoire finale de Djoko, 17% voient Federer. Le revers du Suisse est toujours la plus remarquable des signature sans être pour autant sur le tapis ocre une arme fatale. Pour une première leçon de geste, rendez-vous avec le maître dès cet après-midi.
Et oui, le premier match de Federer, c'est tout à l'heure contre l'Italien Sonego. Roland Garros à vivre toutes les demi-heures dès midi sur RTL. À 13 jours du mondial de football féminin en France, les Bleus ont facilement battu les Thaïlandaises en match de préparation hier à Orléans. Victoire 3-0 en rugby, dernière journée du top 14 hier. Et on connaît le programme des barrages la semaine prochaine, Lyon-Montpellier et Racing La Rochelle. Les deux vainqueurs affronteront ensuite Toulouse et Clermont en demi-finale. Grosse déception pour le champion en titre, Castres, qui ne participera pas à cette phase finale après sa défaite 25-16 face au RC Toulon. Un mot de Formule 1, le Grand Prix de Monaco, c'est à 15h10 et c'est Lewis Hamilton qui partira en pole position.
Et à quelques kilomètres de Monaco, Cannes, on remballe le tapis rouge.
Le festival s'est achevé hier soir et le jury, présidé par le réalisateur Alejandro González Iñárritu, a décidé de récompenser un Sud-Coréen, Bong Joon-ho, Palme d'Or, une première pour ce pays et également pour beaucoup d'autres lauréats, Stéphane Boutsock.
Ce qui frappe avec ce palmarès, c'est la prime à la jeunesse et au discours social. Des grands maîtres convoqués en compétition, seul Pedro Almodovar, via le prix d'interprétation accordé à Antonio Banderas, et les frères Dardenne, récompensés du prix de la mise en scène, un des seuls qui leur manquait, repartent gagnants. Tarantino, Loach, Dolan, Malick ou Bellocchio laissent la place à une nouvelle génération portée par les Français Céline Sciamma, Mati Diop ou Ladj Lee, dont les films décrivent l'ébullition des banlieues, le drame des migrants ou défendent l'émancipation féminine. Et même la Palme d'Or, l'impressionnant parasite du Sud-Coréen Bong Joon-ho, derrière sa forme de thriller, est aussi, sur le fond, un film dérangeant, militant, qui dénonce le règne de l'argent, des apparences et de la réussite érigée en modèle social. Oui, décidément, ce palmarès 2019 restera comme celui du constat alarmant d'un monde qui finit.
Stéphane Boutsock, le monsieur cinéma de RTL.
On vous met évidemment l'ensemble du palmarès sur notre site rtl.fr. Je n'oublierai jamais, Mélina Fachin, que vous m'avez dit qu'il fallait que je fasse un régime. Jamais, vous avez bien entendu.
Du coup, je suis pas la bienvenue pour
vous
revenir.
Vous reviendrez jamais. Merci, d'accord. Mélina Fachin.
Allez, à bientôt,
pour toute l'actualité.
rtl.fr.
Adieu. Adieu et merci. Le ciel en France, Patricia, pour
ça
aujourd'hui.
Ça va un petit peu mieux. On a un petit peu moins d'instabilité, moins d'averses qu'hier et surtout plus d'orages. Encore quelques averses, mais plus faibles et plus localisées entre le sud-ouest et le massif central. Un temps qui restera dans l'ensemble assez nuageux sur une bonne moitié ouest du pays, avec en plus une petite dégradation qui est en train d'arriver par les côtes de la Manche. C'est déjà couvert entre la pointe Finistère et la pointe du Cotentin avec un petit peu de pluie. Et dans l'est, c'est une belle amélioration par rapport à hier. On avait de gros orages, de grosses averses. Aujourd'hui, c'est plus calme, sauf dans le sud-est. Encore cette instabilité avec des ondées à caractère orageux entre les Alpes et la Côte d'Azur et parfois même de la grêle et beaucoup de pluie attendue sur la Corse tout au long de la journée. Les températures pour cet après-midi de 17 à 27, 17 degrés de minimum au Havre, 20 degrés à Nantes, 21 à Lille, 22 à Paris, 24 à Strasbourg et Lyon, 25 à Marseille, 27 à Montpellier.
Un petit coup d'œil sur nos voisins.
Chez nos voisins, on va monter un petit peu plus au nord. On était en Finlande tout à l'heure. Eh bien, pas d'anticyclone en ce moment sur les pays scandinaves. Le temps reste très gris et même frais, 10 degrés cet après-midi de Mans à Helsinki. Du vent et de la pluie. C'est la même chose au Danemark, à Copenhague, seulement 13 degrés, du vent, de la pluie. Donc l'anticyclone, il est plutôt de l'autre côté. On l'a vu tout à l'heure en Espagne, en Andalousie, Séville cet après-midi. Soleil, 32 degrés.
Merci Patricia, retour chez nous pour...